demande le peuple.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le quatrième épisode de notre série consacrée à l'histoire d'un phénomène politique, le populisme français, de gauche ou de droite. C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Marc Lazare. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des ligues d'extrême droite des années 30, dont le moment paroxystique a été l'émeute du 6 février 34, qui a fait chavirer la Troisième République. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau populisme émerge dans les années 50, le poujadisme.
Nous proposons une réforme fiscale qui fasse percevoir l'impôt le plus près possible de la source pour éviter le maximum de fraude. Parce que vous pouvez être certain que si un ministre a pu dire qu'il y a eu en 1953 800 milliards de fraude, eh bien ce ne sont pas les petits commerçants ou les petits artisans de France qui en ont profité.
Ce qu'on appelle le poujadisme a un acte de naissance. Le 22 juillet 1953 à Saint-Céré, dans le Lot, Pierre Poujade, modeste commerçant, il tient une librairie papeterie, et élu au conseil municipal, prend le frais devant chez lui le soir après le travail lorsqu'un certain Fréjac, forgeron carrossier et conseiller municipal comme lui, vient le prévenir de l'arrivée le lendemain d'un contrôleur du fisc chez 30 commerçants et artisans de la ville. Aussitôt, ceux-ci se réunissent et décident de créer un comité de résistance. Résistance. 8 ans après la libération, le mot n'est pas choisi au hasard par ces hommes dont certains, comme Poujade, revendiquent un passé de résistant. Le comité se donne pour chef Pierre Poujade, justement. Il est jeune, 33 ans, entreprenant, d'une éloquence directe et souvent débraillée, comme l'écrit Le Monde de l'époque, qui a l'art de faire vibrer son auditoire. Le lendemain, face à la conjuration, les contrôleurs, surnommés sans rire la Gestapo du fisc, baissent les armes et renoncent à leur mission. Victoire.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
L'épisode, avec ses discussions animées sous les platanes, paraît sortir d'un film de Pagnol ou de Jacques Tati. 1953, c'est d'ailleurs l'année de la sortie des vacances de Monsieur Hulot. En réalité, ce qui vient de naître à Saint-Céré est un véritable mouvement antifiscal qui s'étend rapidement aux départements voisins et qui va prendre bientôt une dimension politique. À la fin de l'année 1953, la création de l'UDCA, Union de défense des commerçants et artisans, donne le coup d'envoi de ce qu'on va appeler le poujadisme, dressant une certaine France profonde des petits contre les gros et, je cite, les pourris parisiens. Les petits commerçants en colère contre le fisc, mais aussi contre le développement des grandes surfaces, sont bientôt rejoints partout en France, à la campagne et en ville, par ceux qui se sentent marginalisés par la croissance et la modernisation. Ensemble, derrière Pierre Poujade, ils vont crier contre le système et dénoncer les élites. En 1956, consécration, le poujadisme s'invite aux élections législatives. À la surprise générale, il emporte 13% des suffrages et envoie 52 députés à l'Assemblée, parmi lesquels un inconnu de 27 ans, un certain Jean-Marie Le Pen, candidat en décembre 1955.
Le mouvement Poujade, dont je suis aujourd'hui le porte-parole, ne vous fait pas de promesses mirobolantes. Il vous promet seulement de lutter pour réunir les États généraux, seul moyen de donner sincèrement la parole au peuple. Par l'union, nous pouvons chasser tous les dirigeants corrompus et incapables. Dans la fraternité, nous reconstruirons ensemble une France libre, forte et jeune.
Le Pen, qui ne tardera pas à se brouiller avec Poujade. Au nom du bon peuple, donc, le poujadisme, en se politisant, prend une orientation de plus en plus nationaliste, pro-Algérie française, xénophobe, raciste, antisémite, notamment contre Pierre Mendès France, et anti-intellectuel. Par exemple, lors d'un discours en 1955, Pierre Poujade déclare, dans le style fleuri qui est le sien, « Nous sommes gouvernés par une bande d'apatrides et de pédérastes, des pourris, des gens sans foutre, des parasites, des gavés qui, je cite toujours, ne peuvent pas se rendre compte de l'état d'esprit du peuple qui travaille. » Marc Lazare, le magazine L'Express, à l'époque, avait publié une caricature de Poujade en Poujadolphe. Le poujadisme, c'est quoi? Du fascisme? Du populisme?
Non, je dirais pas que c'est du fascisme. Il n'y a pas la revendication d'un État fort. Il n'y a pas un nationalisme belliciste. Des formes de violence, mais qui n'ont rien à voir avec les violences qui ont amené Mussolini au pouvoir en 1922 en Italie. Donc, évitons ces comparaisons, même si, à l'époque, une partie de la gauche a cru voir dans le poujadisme du fascisme. Attention, quand je dis une partie de la gauche, n'oublions pas qu'au départ, le Parti communiste français, premier parti politique de France sous la 4e République, a eu les yeux de chimène pour le poujadisme et a essayé justement de s'infiltrer, de soutenir le poujadisme jusqu'à ce que Pierre Poujade, mette de côté les communistes. Pierre Poujade lui-même, vous l'avez rappelé, qui avait été dans la résistance, mais qui avait été aussi membre des jeunesses doriotistes, de Doriot, du Parti populaire français, une des formations des ligues de l'entre-deux-guerres dont nous avons parlé la dernière fois. Donc, c'est le plus bel exemple peut-être d'un populisme intégral. On y retrouve tout, un chef, vous l'avez dit, un chef qui est en rupture complète avec les mœurs politiques et les comportements politiques. Ce langage, c'est ce langage d'une vulgarité, d'une violence terrible avec des formes d'antisémitisme, d'anti-intellectualisme.
Il expliquait que... Homophobie.
Absolument. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que le peuple, justement, a raison et il est bien plus compétent que les experts, que les savants. On dirait aujourd'hui, j'aime pas beaucoup ce mot, mais les sachants. Donc, c'est très puissant, mais aussi dans son langage gestuel, dans son comportement. C'est un homme qui dénoue sa cravate, qui très souvent tombe la veste et parle en chemise. Alors, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est assez fréquent. Mais à l'époque, dans les années 50, non, les responsables politiques n'osent pas se faire ça. Je parlais du Parti communiste français. Le grand secrétaire général du Parti communiste français, Maurice Thorez, faisait très attention à être correctement habillé. Donc voilà, il y a cet aspect du populisme et cette opposition, vous l'avez dit, des petits contre les gros. Les 100 grades, dit-il. Et il a beaucoup d'expressions comme ça pour valoriser le peuple qui est, selon lui, stigmatisé, humilié en permanence. C'est un élément important, parce qu'au départ, c'est des commerçants et des artisans, mais vous l'avez dit, ils se politisent. Et c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une révolte fiscale et qui, dans un contexte particulier, oui, de crise politique, de gouvernement qui se succède...
La 4e
République. À partir de 1954, c'est la guerre d'Algérie, vous l'avez évoqué, de difficultés économiques pour cette catégorie de la population, parce que le pays est en pleine modernisation. Et cette interrogation, justement, de nouveau, on retrouve toujours les mêmes ingrédients, cette interrogation culturelle avec la guerre d'Algérie et puis le processus de décolonisation. Nous sommes dans les années 50, c'est-à-dire après la défaite de Dien Bien Phu, après la perte de l'Indochine. Donc, il y a une forme d'interrogation sur qu'est-ce que va devenir la France, voilà. Qu'est-ce que c'est que la France? Et puis, c'est aussi le développement, à l'époque, le premier développement de l'Europe en 1957, donc un tout petit peu plus tard, ça va être le traité de Rome. Mais c'était déjà la communauté européenne du charbon et de l'acier.
C'est étonnant ce rapport à la résistance. Donc, vous l'avez dit, ce mélange à la fois de résistance et puis il y a aussi des compagnons de Poujade qui sont des anciens de l'extrême droite et du pétainisme. Et même lui-même, vous l'avez dit, il est les deux.
Oui, et c'est très intéressant dans toutes ces expériences de populisme pour le boulangisme, pour les ligues de l'entre-deux-guerres, pour le poujadisme, c'est la référence à l'histoire. Et il y en a deux. Vous avez évoqué la résistance, vous avez évoqué ce mot de Gestapo, du contrôle fiscal. Mais il y a un autre mot, enfin deux mots très employés, y compris dans le discours du jeune Jean-Marie Le Pen que vous avez passé, les États généraux.
Les États généraux.
Et ça, pour Pierre Poujade, c'était très important. D'ailleurs, les députés poujadistes, inexpérimentés, très rapidement le groupe va se disloquer. Il ne s'est pas présenté aux élections législatives de janvier 1956. Et donc, les députés sont laissés à l'abandon. Ces députés ont essayé de faire passer l'idée d'une convocation des États généraux. Donc, il y a l'idée aussi de la Révolution française. Et c'est ça qui est fascinant en France, c'est que le poujadisme est dans l'immédiateté. C'est l'idée, tout peut être réglé très rapidement. Et en même temps, il y a ce poids de l'histoire, et je vais employer un autre mot, cet héritage de l'histoire, mais aussi le choix de l'histoire par les poujadistes. Ces choix de l'histoire, ces mots d'états généraux, ça imprègne justement les populations qui se reconnaissent dans Poujade.
Le poujadisme, Marc Lazare, va disparaître assez vite. Comment on explique son déclin brutal ?
Trois choses. D'une part, une forme d'essoufflement de mouvement lui-même, et notamment de ses contestations fiscales. L'impuissance de ses députés, leur incapacité à véritablement construire quelque chose au Parlement. Il faut dire qu'on va employer une expression d'aujourd'hui. Il y avait une forme de cordon sanitaire contre les députés poujadistes. Et puis la troisième chose, c'est 1958. C'est la fin de la 4e République et le retour du général de Gaulle au pouvoir. Et ça, évidemment, ça va étouffer en quelque sorte la charge charge protestataire du populisme à travers la figure du général de Gaulle.
Merci Marc Lazare. Dans le prochain épisode, nous évoquerons un autre type de populisme, ce que vous appelez le populisme intermittent, les pulsions populistes des grands partis politiques, de gauche comme de droite, n'y échappent pas toujours.